On va revenir sur la réforme des retraites avec la directrice de la rédaction de Marianne. Bonsoir, Natacha Polony. Bonsoir Alain Duhamel. On sait que le gouvernement, la majorité, compte sur l'appui des Républicains pour faire passer cette réforme des retraites. Or, et on l'a vu sur ce plateau de BFM TV l'autre jour avec Aurélien Pradier, il y a quelques dissidents chez les Républicains. Alors, à quoi joue-t-on chez les LR ?
À un drôle de jeu. Il faut partir d'une considération, c'est que le projet gouvernemental, c'est le frère jumeau du projet des sénateurs républicains depuis des années. Et qu'au départ, les interlocuteurs républicains étaient des gens qui avaient tous défendu au minimum 64 et en fait 65 pendant les campagnes présidentielles récentes. Bon, il y avait donc la possibilité d'un compromis pas forcément exprimé de façon stricte, mais d'un compromis de fait. Ça s'est bien passé au début, ça se passe mal maintenant. Visiblement, tous les jours, il y a une demande nouvelle, comme s'il y avait une volonté de faire un échec. Moi, ma thèse, alors c'est une thèse, hein, évidemment, c'est que en réalité, il n'y a pas un parti républicain. Il y a deux partis républicains. Il y a un parti républicain bourgeois, qui est le parti de Ciotti, du groupe du Sénat, de Gérard Larcher, de Retailleau, de Olivier Marleix, etc. Et puis, il y a un parti républicain populaire ou populiste, comme on veut, on verra. Les deux possibilités existent, qui est celui d'Aurélien Pradier, qui, à la manière d'une sorte de Macron au petit pied, de Macron de 2017, a brusquement vu qu'il y avait un blocage, la possibilité de faire une percée de notoriété formidable, il faut bien le dire, sur le dos de ses camarades.
Oui, pour prolonger ce que vous dites, Alain, parce que ce ne sera pas en désaccord sur cette idée qu'il y a deux parties, il y a en fait deux tendances. À mon avis, ça remonte à très loin. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que les Républicains, ça fait tout de même un bout de temps qu'ils n'ont plus de ligne, qu'ils ne savent plus où ils habitent. Pourquoi ? Parce que toute la partie de la droite populaire qu'on pouvait retrouver dans l'ancienne RPR a déjà migré, en fait. Cette partie, William Abitbol, conseiller de Charles Pasqua, parlait à l'époque de la droite des garagistes, c'est-à-dire les indépendants, les petits patrons, etc. Où est-ce qu'ils sont partis ? Ils sont déjà partis au Rassemblement National. Et en fait, LR ne sait pas comment récupérer cette partie-là, c'est-à-dire cet électorat populaire qui croit au travail, qui croit au libéralisme de base et pas au néolibéralisme. Et à côté de ça, en effet, vous avez raison, il y a la dimension bourgeoise, les possédants, qui en effet sont pour une réforme qui ne va pas les toucher. Et toute la question, c'est est-ce que c'est de la part d'Aurélien Pradier de la stratégie personnelle, comme ses opposants, ses adversaires vont le dire ? Est-ce que c'est illégitime de porter ce discours-là ? Et ensuite, est-ce que ça peut être audible ? Parce que tout de même, souvenons-nous, 1993, quand Philippe Séguin, par exemple, dénonce, il est alors président de l'Assemblée nationale, il dénonce la politique menée par le gouvernement Balladur en parlant d'un Munich social et en expliquant que l'abandon total de l'emploi au profit de la monnaie forte, de la lutte contre les déficits, c'est une folie. Mais il est exactement dans cette position-là. Le problème, c'est qu'à droite, ça faisait très longtemps qu'on avait oublié ce discours-là. Alors, est-ce que c'est
ça permet de se démarquer de Macron?
Est-ce que c'est idéologiquement légitime? Est-ce que ça permet de se démarquer de Macron, qui a de toute façon pillé entièrement la dimension droite bourgeoise, l'ancienne UDF? Mais après, est-ce que c'est voué à l'échec? Ça.
Est-ce que c'est pas Pradier qui a raison? Parce que là, pour le coup, il a trouvé un axe d'opposition
Pradier,
au président.
Pradier, qui est visiblement habile, doué, et dont je ne discute pas qu'il ait une sensibilité populaire par son histoire, par sa circonscription. Parce qu'il faut aussi voir que les comportements des uns et des autres sont très liés au type d'électorat de leur circonscription.
Hein, il est député du Lot, faut le rappeler.
Oui, c'est ça, absolument, qui est une terre plutôt de gauche.
Mais oui.
Bon, moi, je serais convaincu par ce qu'il dit s'il n'avait pas défendu la thèse contraire pendant des mois et des mois.
C'est un peu ça le problème.
En particulier quand il était porte-parole de Valérie Pécresse, qui avait quand même objectif retraite à 65 ans, qui en faisait un marqueur, qui en faisait une preuve de courage. Et il le défendait. Et pendant sa propre candidature à la présidence du Parti républicain, ça c'est tout récent, c'était juste avant Noël, quel était son langage sur ce sujet-là ? C'était le langage classique des républicains, c'est-à-dire l'équilibre des comptes, la nécessité de s'adapter, être compétitif par rapport à nos voisins. Ça, je veux dire, le contraire de ce qu'il défend aujourd'hui. Donc, moi, j'ai du mal à ne pas y voir quelqu'un qui a à la fois une fibre populaire authentique et un sens de l'opportunité ou de l'opportunisme qui, en tout cas, lui permet d'avoir aujourd'hui déjà une notoriété 10 fois plus importante qu'il y a 3 mois, alors même qu'il s'était quand même, il avait quand même été clairement battu pour l'élection présidentielle à LR.
Vous voyez, ce qui est intéressant derrière, c'est parce que le destin personnel d'Aurélien Pradier, ses changements de bord, etc., à la limite, je veux dire, les Français, ça ne les intéresse pas.
Non, mais ça dépend où ça le mène, lui.
Voilà, ça dépend où ça le mène, lui. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que ça nous raconte l'impossible reconstruction des anciens partis de gouvernement. Parce qu'en fait, c'est en miroir ce qui arrive aussi au Parti socialiste. Oui. Pourquoi ? Parce que vous avez tous, j'allais dire, les défenseurs du système économique tel qu'il est, qui vous disent, si vous voulez être, et ça fait 20 ans que ça dure, 30 ans, si vous voulez être un parti de gouvernement, il faut être pour ce système-là, donc libre-échange, réduction des déficits, austérité, etc. Sinon, c'est que vous n'êtes pas raisonnable, vous n'êtes pas rationnel. Et donc, vous avez ces partis qui sont complètement fracturés parce qu'ils voient s'en aller tout leur électorat populaire qui n'adhère pas à ce système dont ils sont les perdants, et ils se retrouvent en train de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reste raisonnable dans le cercle de la raison, ou est-ce qu'on parle à cet électorat qui est en train de s'en aller, mais est-ce qu'ils ont même une chance de récupérer cet électorat ? C'est un autre problème. Or, c'est un problème majeur. Pourquoi ? Parce que derrière, pour l'électorat qui n'a pas déjà totalement cessé de voter, bien, il va aux extrêmes. Et donc, vous vous retrouvez avec une fracturation du paysage politique qu'on a vu à l'élection présidentielle, cette espèce de fracturation en 3 blocs qui aboutit à une impasse.
C'est ce à quoi je voulais arriver. C'est-à-dire que la conséquence de ça, c'est que ça complique terriblement l'éventuel rétablissement progressif, de toute façon. Il faut donnerait beaucoup de temps des Républicains. Et ce à quoi on a assisté au Congrès des socialistes, le système symétrique, la difficulté symétrique, le blocage symétrique, et en fait, l'impuissance symétrique. Et que derrière ça, on se retrouve avec 3 forces de taille à peu près équivalente, avec une, si j'ose dire, structurée et inexistante, qui est le Rassemblement national, qui est de discipliné, organisé, même s'il y a très peu de militants, très peu d'implantations locales, n'empêche que c'est une force, et une force d'attraction, en particulier dans la période où, avec l'inflation, etc., la vie est encore plus dure que d'habitude. Donc, il y a ce bloc-là qui est cohérent. Il y a le bloc de la NUPES. Enfin, il y a essentiellement les insoumis, mais qui ont un pouvoir d'attraction, eux aussi, qui ont une idéologie, qui ont un langage, qui ont un langage furibard, mais un langage qui aussi correspond à quelque chose. Et puis, ben, au centre, il y a les macronistes, qui ne sont pas forcément les plus nombreux. Électoralement, pour l'instant, c'est encore eux quand même. Mais c'est plus vrai de leur représentation parlementaire que ça ne l'est en réalité de leur électorat. Les électorats sont de taille équivalente, les 3 électorats sont de taille équivalente, et il n'y a pas beaucoup de place pour les autres.
Mais pour revenir à la question, à quoi jouent les Républicains, qui va l'emporter finalement ? Est-ce que Elisabeth Borne aura suffisamment de voix LR pour faire passer sa réforme ? Allez, mouillez-vous un peu.
Oh non, je ne suis pas Madame Soleil. Je ne sais pas.
Là, on en est où dans le rapport des forces ?
On est dans des rapports de force, dans des tractations. Est-ce que les uns vont se basculer ? Est-ce que la pression sur Aurélien Pradier et sur les réfractaires va les faire basculer, non pas dans le, enfin dans une abstention, etc.
Il a clairement dit à Pradier qu'il fallait qu'il vote cette réforme.
Non, mais bien sûr, il y a une pression absolument énorme. Mais on en, enfin. Pardon d'en revenir à Philippe Séguin qui finalement, enfin pas finalement, mais qui avait tout vu. C'est-à-dire quand il disait
tout vu, ça dépendait des domaines. Ça.
Quand il disait droite et gauche sont des détaillants qui se fournissent chez le même grossiste, l'Europe, on en a l'illustration totale. Ah, ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des partis politiques qui n'ont comme seul discours que il faut faire des réformes qui sont en fait des régressions sociales, régressions sur les retraites, le droit du travail, etc.
Il n'y a pas que des régressions dans les réformes quand même.
Bah, là, en l'occurrence, on parle de ces réformes-là. Eh bien, si vous n'avez que ça, vous n'avez plus de pensée politique.
Ça n'était pas vrai uniquement de la réforme des retraites. Il y a d'autres réformes qui peuvent être... Bon, je prends n'importe quoi, la dernière qui vient d'être votée. pour accélérer la transformation écologique, etc. C'est une réforme. Est-ce que c'est une régression?
On est d'accord.
C'est pas une régression.
Oui, mais...
Non, mais toute réforme.
Alain,
toute
personne dans la rue. Hein.
Toute le réforme, mot réforme dans ce système, a été abîmé par, ce, non, mais, par ceux qui l'ont alors, utilisé alors, pour réduire les acquis sociaux.
En ce qui concerne ce gars qui pour le langage et la sensibilité, quasiment inimitable. En revanche, pour la lucidité politique, le moins qu'on peut dire, c'est que ce n'était pas toujours le cas. Mais pour en revenir à la question que vous me posiez...
Il avait prédit exactement ce qui arrive.
Que vous posiez. Est-ce que ça passera? Moi, je pense que ça passera quand même, ric-rac, mais vraiment ric-rac. Ça passera peut-être à 10 voix, ça passera peut-être à 20 voix, mais je crois que ça passera. Ne serait-ce que parce que chez les Républicains, il y en aura qui voteront contre. Hein. Et Pradier, ça m'étonnerait qu'il vote pour.
Certains vont s'abstenir.
Je pense, certains vont s'abstenir, mais bien sûr. Au bout du compte, bon, ou bien ça passera de très très peu, mais sur le fil. Ou bien, malheureusement, ça sera le 49-3.
Oui.
Et à ce moment-là, le 49-3, la motion de censure ne passera pas.
Non, mais la rue, en revanche, la rue,
ça très en colère.
Ah oui, mais alors ça, de toute façon, je vais vous dire. Au stade où on en est, aujourd'hui en réalité, au stade où on en est, 49-3 ou pas 49-3, la majorité des Français est de toute façon dans une grande hostilité et même une certaine fureur vis-à-vis du gouvernement et d'Emmanuel Macron.
Si on se
de
projette.
Toute façon, et il restera de toute façon. Ensuite, des clivages nouveaux et des protestations fortes
dont le bénéficiaire,
à mon avis, sera plutôt du côté de Marine Le Pen.
Si on se projette sur la suite, par exemple, ça met quelqu'un comme Laurent Wauquiez dans une situation absolument impossible. C'est d'ailleurs pour ça qu'il se garde bien de sortir du silence.
Ça n'est pas un intrépide, hein, visiblement.
Ah non, visiblement. Ce qui est problématique, c'est en effet ce qui va se dessiner pour 2027, vous l'esquissiez à l'instant. Ouais. C'est-à-dire que si personne à droite n'est capable de sortir de cette ornière et que vous avez donc un Emmanuel Macron qui ne peut pas se représenter, donc un candidat qui va être dans le macronisme et la droite bourgeoise, la droite élitiste...
Ou deux si ça se passe mal pour eux.
Bien sûr, ou deux si ça se passe mal. Vous conservez ce clivage entre, on va dire, un bloc pro-système et un bloc populaire qui critique ce système et qui va de plus en plus basculer dans le vote vers le Rassemblement national.
À quoi jouent les Républicains, en fait, c'est à retarder l'heure de l'annonce de leur décès, quoi, en fait. C'est ça.
Ils jouent à essayer désespérément d'exister de nouveau, alors même qu'ils sont en train de s'en mêler les pieds.
Et de mourir.
Et alors même qu'ils n'ont pas produit le travail intellectuel qui leur permettrait de comprendre comment ils en sont arrivés là.
Merci Natacha Polony, Alain Duhamel. On va regarder la une de Marianne, disponible à partir de demain.
Et la France est belle quand elle dit non. D'abord parce que c'est l'anniversaire du discours au non à la guerre en Irak de Dominique de Villepin. Et parce qu'en fait, ce non à la réforme des retraites, c'est aussi un non à tout ce que nous impose un système, la Commission européenne, le néolibéralisme. Finalement, il y a une cohérence. Les Français n'aiment pas qu'on leur impose des trucs.
Et nous, on dit oui à Polony.
Les Français sont surtout par nature exigeants.
Oui, ils sont exigeants.
C'est terminé, on ne relance pas un débat sur la une.
Merci.